RCF. Bonjour à toutes et à tous. Quel point commun entre Vianney, Agnès Varda, Simone Veil, le chanteur Grégoire, Martin Bouygues et Bruno Mazur? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Ça y est, vous l'avez ? Eh bien, ils ont tous été scouts. Et la semaine dernière, pendant que nous explorions la question du pourquoi, du comment, de la vie, de la genèse et de l'ADN d'Elon Musk, je dois vous avouer que je me suis posé la question suivante. Et si Elon Musk avait été scout, que serait-il devenu ? Aurait-il eu ce même regard sur le monde, sur la société, sur Mars ? Et puis, je me suis souvenu aussi que cette semaine, on avait passé le cap du jour le plus long et que l'été allait arriver et que nombre de nos jeunes allaient partir en camp scout. Et cela m'a permis aussi de me remémorer ce 8 avril 90. Ce n'était pas un camp d'été, mais celle de la date de cette promesse où j'ai dit ces mots sur mon honneur. Avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église, ma patrie, l'Europe, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi scout. Parole de la promesse scout à quelques variantes près, qui est la même dans le monde entier depuis plus de 112 ans pour plusieurs milliards de jeunes qui ont été et qui sont encore des paroles structurantes, donnant à ceux et celles qui la prononcent, parfois sans véritablement en comprendre l'intégralité du sens, une direction, une colonne vertébrale pour leur vie future. Avec au cœur de ce texte deux principes fondamentaux, le service et la prise en compte de l'autre. Et ce n'est pas pour rien que l'on trouve plus de scouts ou de guides dans de nombreuses missions de service, qu'elles soient ecclésiales, militaires, artistiques, politiques ou associatives, que dans des métiers plus casaniers, que je ne citerai pas au risque d'en froisser quelques-uns. Alors qu'est-ce que nous mettons derrière cette question du sens du service et du prochain ? Quel sens vous mettez-vous ? Je vous laisse une semaine pour y réfléchir. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bienvenue à toutes et à tous dans l'Écho des Solutions, quel que soit l'heure, l'endroit à laquelle vous nous écoutez. Nous, on est très, très heureux de vous retrouver. On va évoquer cette semaine la question des festivals. Et en effet, les festivals vont battre leur plein tout l'été, des connus, des moins connus, des tout petits et des très gros. Mais ils ont tous à faire face à des enjeux économiques et aujourd'hui à des enjeux écologiques et de transition. C'est ce qu'on va voir avec nos trois invités qui seront présents dans le dossier de l'Écho des Solutions d'ici une petite vingtaine de minutes. Bien évidemment, vous retrouverez vos rubriques habituelles. Pierre Collignon et Maxime Dupont seront là. 7 minutes pour changer le monde, on ira découvrir ou redécouvrir plutôt la ressourcerie culturelle de Montaigu. Mais comme chaque semaine, on commence avec l'invité éco. Aujourd'hui, c'est Pierre Guillet qui est notre invité éco de cette semaine. Il est dirigeant d'entreprise, mais surtout président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et avec lui, on évoque un sondage paru récemment sur la question du partage de la valeur. Pierre Guillet est notre invité éco de cette semaine.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Voilà, et pour commencer cette émission, je reçois Pierre Guillet, qui est le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors aujourd'hui, on va évoquer un sondage qui est paru il y a quelques temps. On n'en avait pas encore évoqué la teneur. Il s'agit d'un sondage que vous avez fait en interne chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens autour de la question de du partage de la valeur. Pierre Collignon nous en avait parlé il y a quelques temps aussi de cette notion de partage de la valeur dans la chronique hebdomadaire qu'il tient en votre nom, Pierre. Mais quand on parle de partage de la valeur, pour les auditeurs, qu'est-ce que l'on entend exactement ? Parce que finalement, partage de la valeur peut prendre plusieurs sens.
Oui, tout à fait. La réalité, c'est qu'on a beaucoup focalisé les débats ces derniers temps sur le partage de la valeur financière. Et en fait, aux EDC, on pense qu'il y a plusieurs dimensions réellement sur le partage de la valeur que nous, voilà, on va redéfinir comme le partage des valeurs plutôt. Et il y a donc trois dimensions pour nous, une dimension financière, hein, qui est celle qui a été évoquée, mais aussi une dimension sociale et enfin une dimension environnementale qu'il faut aujourd'hui prendre en compte pour pouvoir bien cerner ce que sont les valeurs créées, produites par l'entreprise.
Alors justement, comment les entrepreneurs et dirigeants chrétiens se positionnent-ils au travers de ce sondage sur cette question du partage de la valeur? Et est-ce que c'est plus un partage économique? Est-ce que c'est plus un partage sociétal ou social? Ou est-ce que c'est plus un partage environnemental qu'ils font?
Alors, les questions de cette étude étaient assez orientées sur ce que les entrepreneurs faisaient en l'état, c'était donc en photo. Et pour le coup, en fait, il y a eu plutôt des réponses qui tournent autour du partage de la valeur financière. Et puis avec une extrapolation sur un petit peu le social. Aujourd'hui, voilà, il y a 60% des personnes qui ont été interrogées qui ont confirmé avoir mis en place au moins une, voire plusieurs démarches au sein de leur entreprise.
Qu'est-ce qui les fait démarrer, ces entrepreneurs et dirigeants chrétiens? Bon, très souvent, et particulièrement sur le partage de la valeur financière, on sait bien qu'il y a aujourd'hui quelques possibilités de niche fiscale. Est-ce que c'est ça le premier levier qui va intéresser les entrepreneurs et dirigeants chrétiens?
Les leviers, je ne parle pas du démarrage en fait de la démarche qui elle repose pour 90% d'entre eux sur leur foi qui guide en fait leur action dans ce domaine, mais après sur les leviers en tant que tels, c'est associer, reconnaître et fidéliser les collaborateurs à la bonne marge de l'entreprise. C'est ça vraiment les leviers qui apparaissent dans cette étude.
Et quand on creuse un petit peu, et peut-être dans des exemples peut-être que vous avez personnellement ou autour de vous, quelle forme prennent ce partage de la valeur? C'est des bonus, c'est des possibilités de formation, c'est de on le voit dans certaines entreprises maintenant, on associe même directement au résultat de l'entreprise.
Il y a plein de formes. Dans l'étude, je dirais que ce qui apparaît en un, c'est surtout une valorisation salariale, une meilleure valorisation salariale au travers de primes, de dispositifs qui peuvent exister. Et en deux, c'est l'intéressement et la participation qui apparaissent. Après, évidemment, il faut que l'entreprise ait les moyens économiques et la trésorerie pour pouvoir, et le résultat et
Bien
la
pouvoir
trésorerie,
le
donc
faire.
pour distribuer ce résultat sous une forme ou sous une autre. Moi, je prendrais en fait le cas de mon entreprise qui a mis en place un accord d'intéressement, qui n'a pas toujours dégagé de résultat, donc à des moments où elle a dégagé des résultats, elle a distribué de l'intéressement. Et j'ai mis en place pour certains collaborateurs une distribution gratuite d'actions. Et je suis plus largement en train d'ouvrir le capital à l'ensemble de mes salariés. Voilà. Mais je reviens à ce que vous disiez juste avant, parce que ça relie aussi à la question sur le partage de la valeur donc financière. C'est que ce qui est très important, c'est la notion de pédagogie vis-à-vis des salariés. Lorsqu'une entreprise mène une action ou va rétribuer ou va donner, il faut qu'il y ait de la pédagogie pour expliquer en fait pourquoi et comment l'entreprise est à même de pouvoir donner, parce qu'elle a dégagé des résultats. Et donc la mécanique économique du fonctionnement de l'entreprise doit être à la fois expliquée, et il doit y avoir de la part du dirigeant une vraie transparence sur le fonctionnement de l'entreprise, sa situation économique. Et ça, je pense que c'est un vrai préalable pour avoir un bon partage des valeurs. C'est quelque chose de très très important. Et faute de quoi, on pourrait faire partager des risques à un collaborateur que ce collaborateur ne pourrait pas assumer. Je pense là en particulier à l'actionnariat salarié. C'est un dispositif qu'il faut mettre en place, mais avec beaucoup de préparation, beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie.
Il ne faut pas en effet que les collaborateurs soient mis en danger aussi. Vous mettez aussi, évidemment, chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, la pensée sociale chrétienne prend une place importante dans la question du partage de la valeur. Sous-entendu, s'ils n'avaient pas été chrétiens, si la foi ne les a pas guidés, s'il n'y avait pas le corpus de la pensée sociale chrétienne, ils n'y seraient pas allés?
Je pense que non, je pense qu'ils y seraient peut-être allés. Je pense que la pensée sociale chrétienne les amène à prendre certainement beaucoup plus de recul par rapport à leurs biens, notamment, et par rapport au partage du bien commun. Et ça leur permet d'avoir cette démarche de pédagogie et cette prédisposition à justement partager plus facilement. Mon point de vue, c'est que oui, les dirigeants chrétiens aujourd'hui sont certainement plus à même de participer à ce partage plus large des valeurs de l'entreprise avec l'ensemble de leurs collaborateurs.
Merci beaucoup Pierre Guillet d'avoir été notre invité écho de cette semaine. On retrouve l'ensemble de ce sondage sur votre site internet des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et on en retrouve tout de suite un autre. Il s'agit de Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Voilà, et comme toutes les semaines, encore pour quelques semaines, Pierre Collignon avant la trêve de l'été. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'écho des solutions. On va évoquer un article publié chez l'un de nos confrères qui vous a alerté. Il évoque la difficile question de l'emploi des travailleurs immigrés face à la pénurie de main-d'œuvre dans un grand nombre de secteurs. Cette solution est très controversée et fait l'objet de nombreux débats.
Ben oui, mais d'abord il y a toujours les faits, alors même que l'on ne parle que l'on parle pardon de plus en plus de la nécessaire réindustrialisation de la France. Cet article fait référence à une étude de BPI France, le lab, qui montre que 62% des dirigeants de PME et d'ETI déclarent avoir des difficultés régulières à recruter, 64% estimant que ces soucis sont structurels et antérieurs à la crise sanitaire. Des difficultés auxquelles ils répondent en se tournant vers des travailleurs étrangers qui représentent aujourd'hui, selon cette étude, 6% des salariés de l'industrie.
Alors l'étude révèle également que près de 50% des chefs d'entreprise industrielles qui ont recruté des collaborateurs étrangers ces 5 dernières années et que près de 30% comptent de nouveau le faire dans les 5 années à venir. Est-ce que c'est un phénomène qui vous semble inéluctable, Pierre ?
Inéluctable, peut-être pas, mais ici aussi, je crois que c'est le principe de réalité qui s'applique. Les chefs d'entreprise interrogés répondent par exemple avec beaucoup de bon sens « Si personne ne veut faire ses boulots, pourquoi est-ce qu'un étranger ne pourrait pas le faire ?» Alors, le constat est dur, mais il est réaliste. Beaucoup de métiers sont en tension, vous le savez, car il devient difficile de trouver de la main-d'œuvre pour occuper les postes concernés. Difficile de trouver des ouvriers qualifiés, des techniciens et des agents de maîtrise dans le secteur de la transformation et du traitement des déchets, de la mode et du luxe. Oui, du luxe aussi, de la construction et de la mine et de la métallurgie.
Alors, est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit surtout se satisfaire uniquement de ce principe de réalité, Pierre ?
Difficile de s'en affranchir, surtout quand on est chef d'entreprise, quand vous avez besoin de main-d'œuvre pour faire tourner votre usine et que vous êtes sur un marché saturé, il faut bien trouver des solutions. Mais c'est vrai aussi que l'on ne doit pas viser le seul court terme et se poser aussi des questions sur la pérennité de telles solutions qui posent aussi des difficultés.
Alors, lesquelles ? C'est la question qui se pose, lesquelles ?
Ben, nous savons tous qu'il existe des barrières culturelles et qu'il n'est pas toujours simple d'embaucher des personnes qui, en même temps qu'elles découvrent leur métier ou leur environnement professionnel, doivent aussi s'intégrer dans une culture qui n'est pas nécessairement la leur. Ça demande du temps, de l'attention et un vrai désir de la part de l'entreprise, comme du salarié, de prendre en compte ces différences et de les intégrer. Mais il ne faut pas se cacher les choses. Le travail des migrants est aussi un vecteur de nombreuses crispations dans le débat public et on ne peut pas les balayer d'un revers de manche. Ça nous oblige aussi à nous poser des questions.
Alors, voulez-vous dire par là qu'au-delà de l'accueil des migrants, il faut aussi s'interroger sur le désintérêt de nos contemporains pour certains métiers ?
Certainement. De nombreux métiers souffrent d'un déficit d'image, par exemple, et c'est bien dommage, car on peut être parfaitement heureux dans les métiers du soin ou de l'aide à domicile. On peut s'épanouir dans les métiers de la restauration, du bâtiment, de la mécanique, de l'animation culturelle, que sais-je encore. Il faudrait donc revaloriser ces différentes activités, les rendre plus attractives et surtout, arrêtez de penser que le travail est aliénant, comme la réforme des 35 heures a voulu nous le faire croire il y a déjà 20 ans maintenant. Alors ça ne remet pas en cause ce que je disais en commençant cette chronique, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a là un chantier urgent et important. Il en va de notre avenir. Notre société doit redécouvrir la vertu du travail, qui peut être difficile, c'est vrai, même pour un directeur général d'ailleurs, ou un joueur de football, mais qui est aussi un lieu d'épanouissement et de joie.
Et je confirme que c'est en effet un lieu d'épanouissement et de joie que de travailler. Je vous remercie Pierre Collignon, on se retrouve la semaine prochaine. On fait tout de suite une pause musicale avant d'ouvrir notre page festival de cette semaine, puisque c'est le thème du dossier de l'écho des solutions. À très bientôt Pierre, au revoir.
partez faire le tour du monde, chacun de notre côté. Je suis sûr que si la terre est ronde, c'est pour qu'on puisse mieux se retrouver. T'es dans mes pensées chaque seconde, mon bébé. Montagne ou vallée, aucune ne saura nous tenir éloignés.
C'était Teiro sur RCF, Eternal Love. Un Eternal Love pour nos festivals, c'est le thème du dossier de l'Écho des Solutions. Et on retrouve tout de suite tous nos invités.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'Écho des Solutions de cette semaine. On va parler des festivals et de l'économie des festivals aujourd'hui. Et puis des enjeux, hein, tant économiques qu'écologiques, car les festivals aussi doivent faire leur transition. Alors, ils ont peut-être été parmi les premiers. Les habitués des festivals sont allés, je pense, assez fréquemment. Ils sont souvent revenus avec le petit gobelet en plastique avec le nom du festival dessus. On appelle ça des éco-cups. Mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Qu'est-ce qui pèse aujourd'hui sur les festivals du point de vue économique? Quels sont les enjeux pour eux? Est-ce qu'ils sont en danger? Est-ce qu'il y a des menaces? Est-ce que l'écologie peut être une opportunité? On va voir ça avec nos trois invités. Je vous les présente tout de suite. Tout d'abord, Yann Bieuzin. C'est un peu le couteau suisse de l'État. Il est directeur d'une salle en Mayenne à Laval qui s'appelle le 6x4. Il est aussi l'un des organisateurs d'un grand festival à Laval aussi qui s'appelle le Festival de l'éléphant. Et vous êtes aussi au Conseil national du syndicat des musiques actuelles. Autant dire qu'on aurait presque pu faire l'émission qu'avec vous, mais on a souhaité mettre d'autres personnes. Bonjour Yann.
Bonjour.
Merci beaucoup donc d'être avec nous dans cette émission. Pas très loin de vous, par le biais du numérique et en Vendée, j'ai la joie d'accueillir Adeline Manceau, qui est coordinatrice et en responsabilité justement de l'environnement au Festival du Poupet. Bonjour Adeline.
Bonjour.
Et puis avec nous aussi Dominique Béard, qui ne s'occupe pas d'un festival, qui n'est pas dans un syndicat national, mais qui est le directeur d'une association, d'une structure qui est basée à Nantes, qui s'appelle Rêve, qui est le réseau éco-événements. On verra de quoi il retourne d'ici quelques instants, mais je le salue au passage. Bonjour Dominique.
Bonjour à tous.
Merci donc à tous les trois d'avoir répondu présent pour le dossier de cet Écho des Solutions. Les festivals vont bientôt commencer, certains ont déjà commencé. En région nantaise et en Pays de la Loire, nous avons le Festival d'Anjou qui est en cours. Il y a eu le Hellfest le week-end dernier. Autant de festivals qui perdurent, qui sont pérennes dans le temps. Est-ce le cas pour tous les festivals? Je vais commencer avec vous Yann, si vous le voulez bien. Car comme je le disais, vous êtes un peu le couteau suisse de cette émission. Qu'est-ce qui pèse aujourd'hui sur les festivals? Est-ce que les festivals aujourd'hui se portent bien? Ça a été compliqué avec la période de Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une résilience des festivals?
La saison des festivals commence plutôt pas mal pour le moment, puisqu'on voit un retour en force du public. Après, c'est vrai que les festivals aujourd'hui sont dans une situation extrêmement complexe, à la fois en termes économiques, en termes de contraintes législatives concernant l'organisation. Donc ce sont des événements qui survivent à l'heure actuelle. Ce qu'on peut observer là depuis plusieurs années, c'est que il y a une hausse des coûts de production qui est globale. Alors il y a y a l'inflation là dernièrement qui est venue rajouter à ce qui se passait depuis des années, mais on voit des événements qui en fait ont un seuil de rentabilité, donc l'équilibre financier en moyenne est aux alentours de 90-95% du taux de remplissage, donc c'est-à-dire qu'il faut atteindre quasiment le complet pour espérer être à zéro, voire gagner un tout petit peu d'argent quand on arrive.
Alors, c'est lié à quoi, Yann? Je lisais dernièrement chez un confrère qu'aujourd'hui, il y avait une sorte de concurrence exacerbée des festivals.
Bah, en effet, le territoire français compte plus de 7000 festivals. Et puis, en effet, il y a cette... il y a cette pression qui est accrue puisque forcément on veut tous se démarquer des autres, donc soit proposer des affiches avec des artistes qui se font rares ou qui ne passent pas partout, et puis c'est vrai que le coût des cachets artistiques a augmenté, a explosé ces 5 dernières années. Donc ça, c'est un des paramètres qui fait qu'aujourd'hui, l'économie des festivals est complexe. Il y a aussi tout ce qui est frais techniques, l'inflation, comme je disais juste avant, et puis les contraintes législatives avec, on a eu il y a quelques années, la circulaire Collomb.
Sur la sécurité des festivals.
Sur la sécurité des festivals qui ramène encore des dépenses en plus, le tout Vigipirate après les attentats. Enfin, tout ça fait que aujourd'hui l'économie des festivals est extrêmement complexe.
Et on comprend, enfin on peut comprendre, on peut comprendre sans les légitimer toutes ces fêtes improvisées, toutes ces parties, comme on appelle ça, ces teufs comme on dit, qui sont des rave parties non autorisées, parce qu'il y a un tel poids aujourd'hui que simplement se retrouver pour le plaisir de se retrouver autour d'une scène avec quelques musiciens peut rentrer dans une énorme complexité si on a envie de faire ça.
Bah en effet, c'est enfin ça a toujours existé, les free parties, c'est assez ancien comme concept. Peut-être qu'il y en a plus aujourd'hui, comme il y a plus de festivals qu'il y a quelques années. Mais c'est vrai que oui, passer sous les radars de la législation, ça doit c'est forcément plus en tout cas pour une frange de la population, c'est vrai que aujourd'hui le festival est devenu un bien de consommation, si on peut appeler ça comme ça, qui est assez onéreux.
Amandine, au Poupet, vous avez les mêmes constatations que la difficulté pour un festival, Amandine, et je vous demande si vous avez les mêmes constatations, mais la vraie difficulté, Yann l'a dit, c'est arriver à garder la pérennité du festival.
Oui, c'est ça. C'est après, je reprends les mêmes propos que Yann. Hein, voilà, les hausses de cachets, énergie, etc., qui augmentent sans cesse. Après, nous, voilà, on a la chance à Poupée. Voilà, ça fait 36 ans qu'on existe. On s'est implanté petit à petit. Voilà, on est parti d'une fête de village. Après, c'est aussi ça qui nous aide, c'est s'implanter petit à petit sur le territoire et agrandir son public et fidéliser son public. C'est le point important, fidéliser un public, l'emmener dans un concept où il se retrouve pleinement. Quoi. C'est vraiment ça qui peut se faire démarquer ensuite.
Au Poupet, vous l'avez dit, ça a commencé par une fête de famille. Il y a beaucoup dans un esprit fête de famille, il y a beaucoup de festivals comme ça qui aujourd'hui sont devenus des festivals qui ont commencé dans un champ avec 4 bottes de foin et qui aujourd'hui drainent 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Au Poupet, vous accueillez combien de personnes, Adeline?
Alors, nous, on a un format quand même qui est assez variable, avec un cœur de festival qui se déroule dans un théâtre où on est limité à 5000 personnes. Et puis, en fonction des années et des opportunités, on se permet de s'exporter sur un autre site qui peut accueillir de 30 à 40 000 personnes. Donc, l'année dernière, on était plutôt autour de 140 000. Cette année, on va être quasiment complet, mais avec moins de dates où on sera environ 100 000 festivaliers.
Dans ce que disait Yann, il y a des postes sur lesquels vous êtes attentif parce qu'il faut pouvoir équilibrer le budget à défaut de gagner de l'argent. Adeline.
Ah pardon, je croyais que c'était pour Yann. oui, il faut être attentif. Toutes les dépenses sont réfléchies. Voilà, dès que nous on a la chance cette année, la programmation avait été bien accueillie, donc
Vous avez vendu
on
vite.
arrive à investir un petit peu, voilà, se développer peut-être un meilleur accueil que si on avait été sur une billetterie qui était plus compliquée, où on aurait forcément limité certains postes. Mais il faut toujours être vigilant parce que voilà, les coûts, l'énergie, le problème de technique et de main-d'œuvre, voilà, tout ça fait qu'il faut être très vigilant.
Comment ça se passe, Yann ou Amandine, vous répondez, puis après on va s'intéresser à tout le travail que fait Dominique Béard avec Rêve. Mais quelle place jouent les territoires, Yann, dans le développement d'un festival? Je vais peut-être me tourner vers le Festival de l'éléphant qui se tient à Laval en général au mois de mai. Quel enjeu avec les territoires? C'est important pour les territoires, on voit une multiplication de festivals, mais c'est peut-être aussi pour certains territoires, pour pouvoir aussi générer de l'attractivité, du flux touristique, du flux économique, des retombées économiques sur le territoire.
Ben, je dirais il y a deux logiques qui s'affrontent là. Il y a une logique, en effet, de marketing territorial, et c'est vrai qu'il y a des territoires qui ont vu émerger des festivals dans un but clairement économique, et on est pour, en effet, faire soit venir des personnes habiter sur le territoire, soit générer une économie qui est propre au festival. C'est vrai que l'événementiel impacte fortement économiquement les territoires. Après, et l'autre logique, c'est plus une logique, on va dire, d'intérêt général et de fabrique du vivre ensemble, dans laquelle le Festival des Trois Éléphants s'inscrit pleinement. On est un outil d'attractivité, certes, mais le but premier du festival, c'est de proposer des artistes, des propos artistiques qui sont forts, qui sont issus d'une diversité. On met pas sur des scènes des artistes comme on met une boîte de petits pois 40. On a tout un imaginaire qui va avec, et en fait. C'est aussi ça qu'il faut bien prendre en compte, c'est que on fait pas de l'événementiel, en fait. On fait
On fait un festival. On a une dynamique artistique avant d'avoir une dynamique économique et événementielle. Dominique Béard, justement, l'événementiel, c'est votre. Et merci à Yann de faire la transition. L'événementiel est l'un de vos dadas, hein, puisque vous avez créé une association qui s'appelle Rêve, le réseau Éco-Événements, qui est un réseau qui accompagne, qui labellise des événements, mais aussi des festivals éco-responsables. D'où vient cette idée, Dominique Béard? Vous êtes nombreux en France à proposer cette forme de labellisation d'événements et d'accompagnement des organisateurs d'événements et de festivals à une éco-responsabilité?
Il y a de plus en plus d'organisations, des associations, des fédérations, même des entreprises qui accompagnent aujourd'hui les organisatrices et les organisateurs d'événements et de festivals sur les questions de transition écologique. Et nous, on propose un label, mais il y a partout en France, dans toutes les régions, il y a d'autres formes. Alors, ça peut être des labels, ça peut être des chartes d'engagement, ça peut être des checklists. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire et c'est en pleine explosion.
Alors justement, comment on accompagne ces festivals? Quels sont leurs besoins et qu'est-ce que vous leur apportez, Dominique Béard, avec le rêve?
Alors déjà, en fait, en général, moi, ce que je constate, c'est que les festivals s'accompagnent eux-mêmes. Il y a déjà beaucoup de réseaux de festivals qui existent. Là, on a la chance, par exemple, d'avoir deux représentants des Pays de la Loire. Il existe un réseau dans les Pays de la Loire qui est le pôle des musiques actuelles, sur lequel il y a un groupe de travail. En fait, les festivals, depuis toujours, travaillent sur ces questions, sur toutes les questions en général, et depuis quelque temps, sur les questions de RSE, de transition écologique.
Même les plus gros festivals, qui ne sont pas forcément des festivals de musique, je le citais en début de. En début d'émission, mais on a le festival d'Anjou en Maine-et-Loire. Il y a aussi les Folles Journées à Nantes qui sont de la musique plutôt classique. Ces festivals aussi, qui sont d'autres formes de festivals, qui ne sont pas forcément des festivals de musique actuelle, s'intéressent à l'éco-responsabilité. Est-ce que c'est devenu une nécessité en fait aujourd'hui? Est-ce que
Alors les deux, en fait, avant que ce soit nommé sous forme d'éco-responsabilité, le fait festivalier a toujours été plus intéressé que les autres formes d'événements à l'éco-responsabilité. C'est-à-dire souvent, ne serait-ce que par contrainte financière ou par ancrage territorial et envie de favoriser des partenariats locaux, des agriculteurs locaux, tout simplement à travers le bénévolat et à travers la mutualisation de matériel. Donc tous les festivals ont toujours eu cette approche-là. La grosse question qui se pose sur les festivals, c'est la question de la jauge, de la taille du festival qui fait en fait déplacer des personnes. Et en fait, plus la jauge est importante, plus les gens viennent de loin. Là, par exemple, on a cité plusieurs donc sur le festival de poupées, sur les trois éléphants. Vous avez parlé tout à l'heure du Hellfest. En fait, le risque ou l'enjeu, c'est que plus le festival est connu et reconnu, plus les personnes vont venir, vont faire des kilomètres, pas forcément uniquement en transport doux. Ça peut être,
ça peut être de la voiture, de l'autocar.
Tout à fait. Et ils viennent de plus en plus loin. Et nous, en fait, le véritable enjeu qui est posé. Là-dessus, c'est quelle est la jauge que l'on peut avoir pour que ce soit entre guillemets acceptable d'un point de vue de transition écologique, sachant qu'il n'y a pas de solution.
Vous voulez faire un peu comme certains sites touristiques qui limiteraient leur nombre de visiteurs annuels pour préserver l'environnement pour les festivals en disant quelle est la jauge acceptable pour l'impact carbone et l'impact environnemental.
Ça, c'est pousser le raisonnement loin. Peut-être qu'un jour on y arrivera. Peut-être pas, c'est une vraie question. Là, par exemple, ce que vous indiquez sur les sites, c'est que les sites, physiquement, sont à bout de souffle. C'est-à-dire, bientôt, il n'y aura plus de sites. Là, en fait, sur la capacité d'accueil des festivals, elle est... Il y a le temps, et puis en général, ils prennent bien soin de leur site et du territoire qui va avec.
Adeline, comment ça se passe au Festival du Poupet? Si je vous ai invité, c'est aussi parce que vous avez reçu un bravo étant l'un des prix qui a été remis pour justement les festivals qui dégageaient une forme d'éco-responsabilité. En Mayenne, il y a un réseau des festivals qui a reçu un prix pour leur coopération. Et vous, votre travail au Poupet qui est engagé justement sur cette éco-responsabilité du festival, il s'enracine dans quoi et pourquoi vous avez reçu ce prix?
Alors, il s'enracine dans une équipe de bénévoles qui est fortement impliquée. On a créé il y a quelques années déjà une commission dite développement durable qui se penche sur les sujets. C'est une commission où nos responsables bénévoles des différents services sont représentés. Et voilà, on se met autour de la table plusieurs fois par an et on se pose les bonnes questions, savoir quelles pratiques on peut améliorer. Mmh. Et puis donc là, on a bien en effet reçu.
On a perdu Adeline. Alors je vais me retourner en attendant qu'Adeline ne revienne, qui doit avoir des problèmes de connexion. Yann, justement, au Festival des Trois Éléphants, comment cette question de l'éco-responsabilité est-elle prise en compte? Et jusqu'où on va? Est-ce qu'on sort juste de la fameuse Eco-Cup que tout le monde connaît?
Oui, c'est une réflexion globale chez nous, il y a une commission aussi avec des bénévoles sur l'ensemble du processus de production. Donc, on va avoir des réflexions et puis de la mise en place d'actions sur les déchets, sur les transports, sur l'approvisionnement, sur c'est une réflexion globale. Et en fait, on est dans une démarche d'amélioration continue. Donc, d'année en année, on pousse un peu plus loin les réflexions et les actions qui sont mises en œuvre.
Est-ce que ça a un impact sur, justement, on parlait au début de cette émission de l'économie d'un festival, est-ce qu'il y a un impact économique d'une éco-responsabilité? Est-ce que finalement, se mettre à faire un festival éco-responsable, peut-être que c'est vous, Dominique, qui pouvez nous répondre là-dessus, est-ce que faire un festival éco-responsable, ça coûte plus cher à des organisateurs d'événements ou pas?
Alors, ça change profondément les habitudes. C'est-à-dire, si je prends un exemple hyper concret, là, vous avez parlé des gobelets, mais c'est valable pour l'alimentation, c'est valable pour la mobilité, pour la technique, c'est valable pour tous les sujets. En fait, il faut changer les habitudes, il faut changer les perceptions. Donc juste ne serait-ce que ça, c'est-à-dire se remettre en question, c'est pas quelque chose de simple, ça prend du temps, et donc du coup toute conduite de changement déjà en soi coûte de l'argent. À titre pratique, souvent on entend dire des gens, bah, tiens, on a qu'à arrêter les plastiques à usage unique. C'est aussi simple que si par exemple il y a des personnes qui écoutent et on leur dit du jour au lendemain, tu travailles habituellement sur un ordinateur et puis tiens, tu vas passer du clavier AZERTY au clavier QWERTY. Il y a qu'à. Donc les il y a qu'à faucon déjà ce type d'injonction, c'est pas très simple à gérer. Un festival, ce sont des salariés, ce sont des bénévoles, ce sont des pratiques, des us et coutumes. Et faire changer tout ça, c'est pas si simple. S'ils ont pris ces types d'habitudes, c'est parce que justement, c'était ce qui allait dans le bon sens. Donc, il y a des actions qui vont être plutôt transparentes, qui vont pas coûter d'argent. Modulo, bien sûr, en fait, la question de la formation et de la conduite de changement. Il y en a qui, eux-mêmes, peuvent faire économiser de l'argent, puisque quelque part, quand on parle de transition écologique, on parle de sobriété. Et puis, il y en a qui, elles, vont effectivement coûter de l'argent, c'est-à-dire acheter du matériel plus en local plutôt que de l'acheter dans des pays où il y a moins d'enjeux sociaux et environnementaux, ben, ça coûte plus cher. Mmh. Acheter de la nourriture de bonne qualité qui est produite dans le coin, ça peut avoir son prix, parce que malheureusement, on est dans un système alimentaire mondial où, en fait, acheter de la nourriture de mauvaise qualité revient
plus cher.
Moins cher. Mmh. C'est moins acheter cher, de bonne nourriture, c'est un peu plus important. Donc, au final, en fait, il y a des enjeux. Et là, tout à l'heure, quand vous commenciez le tour de table et sur les échanges, ben, on voit déjà que les organisateurs et les organisatrices sont contraintes. Sont économiquement, c'est-à-dire avec les nouvelles réglementations qui sont en train d'arriver, avec l'inflation générale, et nous, effectivement, on arrive avec nos enjeux, avec des enjeux supplémentaires qui plus est, sont pas systématiquement réglementaires ou immédiats.
Alors,
quand vous devez passer, si vous avez un enjeu réglementaire à mettre en place immédiatement, versus un arbitrage budgétaire à faire sur quelque chose qui est important dans 5 ans, dans 10 ans, ben, ce n'est pas toujours simple de faire un choix.
Alors, on a retrouvé Adeline qui a réussi à retrouver une connexion.
Oui, désolé, je dois avoir une micro-coupure.
C'est des choses qui arrivent. Alors justement, on était tout au début de notre échange. Qu'est-ce que vous avez mis, vous, en place? Dominique vient de nous expliquer. Je posais la question suivante à Dominique avant que vous n'arriviez sur est-ce que ça coûte plus cher finalement à un festival de mettre en place une dynamique éco-responsable? Et qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous m'expliquiez que vous aviez des petites commissions qui y réfléchissaient, mais concrètement parlant, sur le Festival du Poupée, aujourd'hui, l'éco-responsabilité, c'est quoi?
Alors, donc oui, ce que je disais, donc nous, voilà, notre commission travaille, se pose les bonnes questions pour essayer d'améliorer nos diverses pratiques. Alors forcément, ça a un coût, il y a un investissement. Nous, pour obtenir le prix des Bravos, donc on a décidé de supprimer... Alors, tout ou presque les bouteilles plastiques. Donc, on a dû investir financièrement dans des installations qui nous permettent d'alimenter nos bars au théâtre de verdure en fût, en fait, pour le coca, la limonade. Mm-hmm. Donc, voilà, il y a un investissement. Heureusement, on a un partenaire qui nous a bien soutenus dans la démarche et qui a pris une partie en charge. Mais voilà, c'est des petites choses concrètes comme ça qu'on essaye de mettre en place. Et c'est un coût, mais par contre, quand on pense, on anticipe plutôt les déchets, qu'on veut éviter plutôt les déchets, les emballages, etc. Ben, au final, ça nous coûte moins cher en traitement de déchets aussi. Donc voilà, c'est l'un dans l'autre, on se retrouve, mais ça a forcément une volonté qui doit être forte quand même pour passer ce cap
donc,
financier.
Aujourd'hui, si on va au Festival de Poupée, plus aucune bouteille en plastique et on a des éco-cups aussi. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés? Yann, on a parlé de l'environnemental, on a parlé de l'écologie. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des efforts qui sont demandés aux fournisseurs? Parce que Dominique, vous le disiez à l'instant, passer du clavier AZERTY au clavier QWERTY, déjà pour des organisateurs et peut-être pour des festivaliers, mais des fournisseurs derrière, demander à un artiste peut-être de ne pas venir en autocar avec tout son groupe, mais de prendre le train, nos fournisseurs de lumière aussi. Yann, c'est des choses qui aujourd'hui commencent à arriver, cette négociation avec les fournisseurs externes?
Oui, ça fait plusieurs années, c'est pareil que c'est mis en place. On a forcément des réflexions sur l'ensemble de la filière musicale, puisque les producteurs, eux, ne sont pas exempts aussi de responsabilité par rapport au coût énergétique d'une d'un spectacle. Alors, c'est vrai qu'on est, y a des réflexions, y a des, sur le transport des artistes, il y a de plus en plus d'artistes qui se déplacent aujourd'hui, qui font des tournées en train, ce qui amène d'autres problématiques puisque, économiques, puisque ça veut dire souvent fournir l'ensemble du backline à ces artistes-là à leur arrivée. On essaye de faire attention à ce qu'il y ait de moins en moins d'artistes qui viennent en avion, qui...
Donc c'est vraiment une réflexion globale.
Aujourd'hui.
Alors on arrive un peu au terme de cette émission, pour pas dire au terme de cet échange. Yann, s'il y avait un levier à actionner pour vous, ce serait lequel aujourd'hui sur les festivals, sur l'ensemble de ce qu'on a échangé, soit sur le plan économique, social ou environnemental?
De réfléchir à des événements qui soient bien ancrés sur leur territoire et qui ne fassent pas de greenwashing, qui pensent pour le bien du territoire et des populations et non pas pour un bien financier.
Et pour vous, Adeline, quel serait le levier à actionner pour ces festivals sur l'ensemble des points économiques, environnementaux, écologiques, sociaux?
Je pense que c'est vraiment déjà bien définir entraîner avec soi toute l'équipe. Clairement, si la moitié de l'équipe n'est pas convaincue par tous ces enjeux-là, c'est compliqué d'emmener le projet. Donc voilà, la première chose, c'est vraiment convaincre son équipe et se faire bien entourer.
Il reste des places pour le Poupée encore?
Il reste encore quelques places sur 3-4 concerts sur la saison à venir.
Eh ben, très bien, on peut aller donc sur poupée.fr pour trouver toute la prog et réserver.
Festival-poupée.com.
Dominique Béard, le mot de la fin est pour vous. Vous êtes donc au cœur de l'œil du cyclone, de ces événements. Vous qui voyez tout ça de près, de loin, qu'est-ce que vous pouvez, quel levier vous actionneriez? Excusez-moi.
J'aurais deux propositions à vous faire. La première, c'est je suggère de travailler plus sur l'alimentation, parce que l'alimentation, en fait, c'est ce qui est maîtrisé par l'organisateur. Si on travaille sur le zéro déchet, ou si on travaille sur notamment la mobilité, qui sont des enjeux importants, il y a plus de parties prenantes, alors que sur l'alimentation, en fait, on travaille plus sur une notion d'un cahier des charges, et c'est un petit peu plus simple, me semble-t-il, à mettre en place. Je n'ai pas dit que c'est simple, mais ça me paraît être plus accessible. Ça, c'est le premier point. Et il y a moins d'interlocuteurs, et puis en fait, vous changez la carte d'un menu. Ça me paraît plus accessible. Le deuxième, c'est tout simplement, on en avait parlé au tout début, on propose nous des méthodes pour démarrer sur l'éco-responsabilité, que ce soit des checklists ou via le label. Il y a celui du rêve, et puis il y en a d'autres, et c'est des méthodes en fait qui permettent d'avoir une vision globale, parce que souvent on a des personnes qui nous disent on sait pas par où commencer. Et ben en fait faut commencer, et avec cette vision globale vous arrivez un petit peu à travailler sur tous les sujets.
Et puis sans faire de pub pour vous, vous pouvez accompagner ces festivals et ces événements justement pour qu'ils soient vertueux aussi, Dominique.
C'est ça, sans faire de pub, nous pouvons accompagner avec le label Événements Éco-Engagés, mais sans faire de pub.
Allez, merci beaucoup Yann Bieuzin. Bon courage pour la fin de saison du 6x4. Je pense que vous avez commencé déjà la programmation des 3 éléphants de l'année prochaine, ou pas encore, vous tirez les bilans?
Eh ben oui, c'est ça, on est sur les bilans et sur la préparation de l'édition en 2024.
Merci beaucoup à tous les trois. Nous, on fait une micro-pause, on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour un Max Déco, et on retrouvera justement encore nos invités des 7 minutes pour changer le monde, puisque je vais faire un petit tour à la recyclerie culturelle de Montaigu. On en avait déjà parlé dans une émission précédente, mais je vous rediffuse avec grand plaisir dans le cadre de ces festivals, parce qu'on ne l'a pas dit, les ressourceries culturelles, elles peuvent aussi aider les événements à devenir éco-responsables, soit en récupérant, soit en vous louant des choses de seconde main. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. On retrouve tout de suite Maxime Dupont.
Maxime Dupont.
Il est donc temps de retrouver l'ineffable Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ça n'a pas été votre festival, et mon pauvre Maxime, vous n'avez pas pu échapper, j'imagine, à Vivatech.
Et oui Patrick, j'ai dû me résoudre à y aller par peur de la faute professionnelle, puisque n'ayons pas peur de le dire, Vivatech est désormais incontournable, installé dans le paysage économique et médiatique français bien au chaud, juste après le Festival de Cannes et Roland-Garros. Et c'est tout sauf un hasard, puisqu'en fait les similarités sont très nombreuses.
Alors je sens que vous allez nous expliquer pourquoi, comme au Festival de Cannes. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve qui est similaire au Festival de Cannes? Les tapis rouges, peut-être?
Oui, alors comme au Festival de Cannes, à Vivatech, le plus important, ça n'est pas tant le salon en lui-même que tout ce qui l'entoure et surtout votre capacité à vous mettre en scène sur les réseaux sociaux. Un coup de force, hashtag AI, disruption, innovation, machine learning, tech is the new sexy, but where is Elon? comme au Festival de Cannes, point de salut si vous ne savez pas parler anglais, tous les stands sont, ou booths, puisqu'on dit des booths, sont signalés en anglais et siglés de phrases dans cette novlangue qui est le langage officiel de la Porte de Versailles. Et puis, comme au Festival de Cannes, où les acteurs cherchent des réalisateurs et les réalisateurs cherchent des producteurs, à Vivatech, tout le monde essaie de vous pitcher des solutions forcément personnalisées à des problèmes dont vous n'aviez pas du tout remarqué que vous les aviez.
Absolument, Maxime. Et alors, les similarités avec Roland-Garros, qu'est-ce que ça pourrait être?
Alors, comme à Roland-Garros, il y a un code vestimentaire très strict à respecter. T-shirt coloré, badge bien visible, iPhone à la main, basket au pied. Attention, le monde de la tech est décontracté. Ne venez surtout pas en costume. Comme à Roland-Garros, il faut un sacré flair pour dénicher parmi les milliers d'exposants le champion de demain, comme le ferait un recruteur assistant aux qualifications du tournoi. Et puis, comme pour Roland-Garros, mentionner une impossibilité d'assister à une réunion parce que vous êtes à Vivatech est du dernier chic. Personne n'osera vous demander d'y renoncer. Aller à Vivatech, c'est vraiment faire partie des happy few. Même si pour 20 euros, tout le monde peut s'y rendre et faire la queue pour regarder un hologramme 3D changeant de couleur pour montrer les possibilités infinies de personnalisation de votre papier peint.
Alors, c'est pas mal aussi pour les chiens truffiers, éventuellement à Vivatech, pour renifler la bonne occasion. Festival de Cannes, Roland-Garros et Vivatech, donc, nouveau point de passage obligé pour les managers contemporains, Maxime.
Oui, c'est cela. Alors, mon conseil, restez bien sur votre canapé et surfez sur Internet. Vous y trouverez beaucoup d'articles très bien faits qui vous permettront encore mieux que si vous y étiez de vous faire un avis sur les films à voir à Cannes, les favoris de Roland-Garros et les quelques pépites de Vivatech. Le tout en évitant la cohue, la chaleur et l'assaut des pitchers de Vivatech. Et puis, ça vous permettra aussi d'essayer de réfléchir, de comprendre ces centaines de personnes qui étaient venues cette année de bon matin pour attendre derrière une grille le passage d'Elon Musk. Donc, elles ont attendu pour le voir passer. Elon Musk qui a débarqué en grande pompe pour nous raconter, comme d'habitude, un sacré nombre de choses vraiment très peu intéressantes.
Merci, Maxime. À la semaine prochaine. Et si vous êtes fan d'Elon Musk, eh ben vous pouvez retrouver l'émission de la semaine dernière, puisqu'avec Emmanuel Botta, rédacteur en chef de Capital, eh bien nous avions évoqué la biographie coécrite avec sa consoeur Béatrice Mathieu sur Elon Musk. Et je peux vous assurer, que le parcours de cet homme est enraciné dans le parcours familial. Et voilà, je vous invite à réécouter cette émission très, 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 très instructive. Voilà, merci. Je fais de la pub pour moi-même, Maxime. Donc, vous voyez maintenant. Je vous propose de continuer avec nos 7 minutes pour changer le monde. On continue dans la thématique des festivals et on va aller retrouver, vous l'avez peut-être déjà entendu il y a quelques temps, mais on a voulu la rediffuser en cette fin d'année, cette petite visite réalisée dans le cadre de la ressourcerie culturelle de Montaigu. Comment on peut être éco-responsable et monter des événements, c'est ce qu'on va découvrir d'ici quelques instants dans nos 7 minutes pour changer le monde. À très bientôt, Maxime.
Au revoir.
7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
Voilà, on s'est délocalisé dans les bureaux de la ressourcerie culturelle de Montaigu pour évoquer cette question dans nos 7 minutes pour changer le monde de que faire avec tout le matériel qui est mis en place lors d'un événement, d'un festival. Vous savez, ces écrans en tissu sur lesquels on va projeter des lumières, ces structures en bois, ces grandes moquettes dans les allées des salons. Qu'est-ce qu'on en fait et est-ce que c'est revalorisable? Eh bien, la ressourcerie culturelle de Montaigu a trouvé une solution et je suis avec Timothée Clerc qui est le responsable de l'administration et du développement de cette ressourcerie. Bonjour Timothée.
Bonjour.
Merci beaucoup donc de nous recevoir déjà dans vos bureaux. On le voit au travers de la fenêtre, il y a déjà un grand hangar, mais on m'a dit que c'était pas que c'était qu'une petite partie du grand iceberg que vous aviez. Dites-nous un peu ce que c'est qu'une ressourcerie culturelle. Je crois que je l'ai un peu résumé dans mon introduction. C'est bien ça, c'est se dire finalement il y a plein de choses qui sont sur des salons, sur des festivals, qui sont jetées plutôt que de les jeter. On va pouvoir les réutiliser.
Ouais, c'est ça. Ça part du constat qu'il y a une grande quantité dans l'événementiel de manière générale, que ce soit le spectacle vivant ou l'événementiel de salon, l'événementiel culturel de manière générale, qui a des besoins en matériaux et en fournitures qui sont du one shot, donc utilisés d'un seul coup, et qui vont ensuite être généralement jetés, alors même qu'ils auraient pu avoir une seconde vie. Et donc notre but justement, nous, c'est d'aller à cet endroit-là et de voir comment à la fois on peut récupérer tous ces matériaux-là qui sont généralement très intéressants, qui coûtent cher et surtout qui sont demandés par d'autres acteurs. Et aussi en amont de voir comment on peut justement réduire toute cette quantité de matériaux qui ont vocation à être jetés et donc réutilisés par nous.
Alors quand est-ce qu'est née cette ressourcerie culturelle à Montaigu ? Ça fait longtemps que vous existez ?
Alors le projet, il a débuté de manière un petit peu informelle en 2018 et puis s'est progressivement étoffé avec quelques actions. On est devenu une association en fin 2020. Donc ça fait 2-3 ans qu'on s'est posé, qu'on commence à salarier des personnes et surtout qu'on a acquis aussi un grand bâtiment dans lequel on peut mener nos activités, stocker du matériel, etc. L'équipe se structure, on est 6 actuellement. Et on travaille avec plusieurs prestataires et on essaie justement d'agrandir un peu notre spectre d'opération et de trouver surtout un rythme de croisière là depuis cette année. Voilà.
Alors justement, c'est quoi l'activité de la ressourcerie culturelle ? Enfin, je veux dire, comment ça s'organise ? Vous avez un événement qui vous contacte. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Ou est-ce que c'est vous peut-être d'ailleurs qui allez à la recherche des événements et qui allez les solliciter ?
On est souvent sollicité parce qu'on commence à être un petit peu connu et puis qu'il y a des acteurs un peu historiques de Nantes qui ont disparu récemment. Donc par exemple une exposition, là je peux voilà, on est sollicité pour le démontage d'une exposition avec en vue de réutiliser la plupart des matériaux qui ont été utilisés dedans, des vitrines, des socles, etc. Nous ensuite on intervient pour voir si c'est possible, il y a une question de vie, etc. Et surtout une question technique, de voir à quel point c'est réemployable, à quel point c'est facilement démontable, etc. Et ensuite donc on intervient sur place avec des équipes, de temps en temps on prend des prestataires pour compléter nos équipes. Donc ça c'est une possibilité. Ensuite on a souvent des opéras ou des théâtres qui nous contactent parce qu'ils ont des décors à évacuer, du matériel technique, etc. Là, on peut aller sur place d'abord pour voir si ça nous intéresse, si c'est valorisable ou si c'est au contraire de la très mauvaise qualité. Voilà, c'est cassé. Et on reprend ça chez nous, on fait des collectes qu'on facture généralement. Et ensuite, on ramène ça donc à Montaigu dans notre espace de stockage. Et le but, c'est là où c'est compliqué, c'est de leur donner une seconde vie. Donc de faire en sorte que d'autres personnes s'intéressent à ces matériaux, à ce matériel et puissent le réutiliser, alors soit tel quel, soit le retransformer, par exemple des châssis de décor, voilà, qui représentent un salon du XVIIIe siècle. Est-ce qu'on le repeint, ou est-ce qu'on veut garder au contraire cette esthétique-là et la réutiliser telle quelle, ou au contraire, est-ce qu'on va la débiter en petit assaut justement pour réutiliser les matières premières?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire autant on comprend bien comment vous intervenez sur un salon, autant on comprend bien comment vous intervenez sur des décors de théâtre. Est-ce que ça veut dire que pour un événement qui aurait besoin de matériel, vous avez aujourd'hui un catalogue avec des vitrines, avec des photos et puis un peu, j'ai envie de dire, comme le catalogue, ex-catalogue de la Redoute, on scrolle des pages pour chercher ce dont on a besoin et ça a un coût à la location, à la durée, etc.
Ouais, tout à fait. On a un catalogue sur notre site internet, donc avec 2 pages, soit vente ou location. Et puis tous les matériaux ou objets qu'on récupère, on les met en ligne. On le complète évidemment au fur et à mesure. Et ensuite, voilà. Alors au choix, vous pouvez soit venir sur ce site histoire d'avoir une idée de ce qu'on a en magasin, ou alors venir directement, ce qui donne aussi une meilleure idée de la qualité, de la quantité, etc. des matériaux qu'on peut avoir. Mais oui, c'est tout à fait l'objectif. De notre modèle de commercialisation.
Vous avez combien de personnes qui travaillent à la ressourcerie ? Qui dit association dit engagement bénévole, il y a des collaborateurs salariés, il y a des bénévoles, il y a combien de personnes qui interviennent dans le process de conseil et de récupération du matériel ?
Donc comme je disais, on est 6 salariés, on a 2-3 prestataires qui travaillent régulièrement avec nous, une service civique aussi. Et puis ensuite, on a entre 5 et 10 bénévoles qui viennent régulièrement nous donner des coups de main, que ce soit pour des démontages qui prennent un peu de temps, de la manutention, ou alors des projets un peu plus personnels de fabrique d'objets, etc. Voilà, on essaye de travailler avec ces gens-là. On a une équipe qui se structure un petit peu depuis cette année.
Vous êtes nombreux en France à pratiquer la ressourcerie culturelle ?
On est 6-7 à peu près, avec sur tout le territoire français, pas tout à fait également répartis. On a quelques structures, enfin 3 structures, 4 structures parisiennes notamment. Mmh. Et donc avec chacune des spécificités, on a par exemple des collègues de Paris qui sont uniquement sur le son et lumière, on a des collègues de Paris qui sont aussi uniquement sur le cinéma. On a des collègues qui sont uniquement sur de la matière. Enfin bon, voilà, ça bouge un petit peu et il y a des nouveaux projets qui émergent à droite à gauche, à Strasbourg, à Lyon, à Dijon. Donc ça, voilà, le réseau se complète progressivement.
Est-ce que vous avez le sentiment que les salons, les foires expo, les congrès, les théâtres, les scènes nationales, les plus petites scènes départementales ou autres, ont conscience aujourd'hui de cette nécessité de ne pas uniquement jeter alors, vous êtes une ressourcerie culturelle, on pourrait évidemment faire le tri sélectif des objets en allant s'adresser à des ressourceries ou à des déchetteries. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'ensemble de ces acteurs a une prise de conscience de la nécessité de pouvoir utiliser finalement de penser cette circularité?
Oui, alors bon, parce que médiatiquement ça fait de plus en plus de bruit, ce genre de choses, parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez des fois humain de voir des quantités gigantesques de matériel neuf ou très très peu usé être mis à la poubelle, etc. Et puis notamment dans le cadre de créateurs de décors, c'est toujours un petit peu difficile, je pense, que pour un scénographe de voir que une pièce qu'il a, enfin, le décor d'une pièce qu'il a créée doit être jeté et finir en morceaux de bois qui vont finir dans de l'aggloméré. Bon, doit y avoir un petit pincement au cœur à ce moment-là. Donc nous, le travail se fait et nous ensuite on a un énorme travail de sensibilisation. Alors déjà dans un premier temps pour dire attention, c'est ce que vous considérez comme du déchet peut au contraire avoir une seconde vie, et surtout ensuite vous, quand vous reconstruirez ou quand vous allez projeter tel événement, etc., pensez d'abord au réemploi, donc pensez à des choses qui ont déjà vécu pour reconstruire et pour organiser vos événements.
Donc le plus important pour vous, c'est pas forcément uniquement de récupérer, c'est aussi de conseiller, de conscientiser les différents acteurs à cette capacité d'anticiper par le réemploi avant de fabriquer des choses neuves.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est l'idée de l'éco-circularité, de l'économie circulaire. C'est pas que les gros acteurs libèrent tout leur flux de déchets, etc., dans des ressourceries qui elles ensuite redirigent ces flux vers des plus petites structures, etc. Parce que sinon, en fait, les gros acteurs n'auront aucun intérêt vraiment à réduire leur quantité de déchets produits. Donc le but, c'est de sensibiliser suffisamment ces acteurs et de leur proposer aussi suffisamment de matière pour que eux-mêmes, lors de la conception de leurs événements ou lors de la conception de leur scénographie, etc., puissent s'alimenter et venir se fournir chez nous, justement, voilà, pour qu'il y ait l'idée de circularité totale et qu'au final, des gros acteurs fournissent d'autres gros acteurs avec des petits acteurs au milieu. Mais voilà, l'idée d'un cercle, au final.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, et merci beaucoup à Timothée Claire de nous avoir reçus à la ressourcerie culturelle de Montaigu. En effet, un très très beau projet à mettre entre toutes les mains des organisateurs d'événements. Je vais y arriver. Il est temps de nous quitter. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle écoute des programmes de RCF. Vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr ou en podcast. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. À très bientôt. Au revoir.